à refaire, mais il serait quand même temps de se rendre compte qu'il y a un problème avec ce jeu de rôle où c'est le même gars, surtout moi, qui tous les mercredis écrit la question et qui fait la réponse. D'abord, on transforme la démocratie en simulacre, et puis nous, en plus, on crève de faim.
Martin, vous n'avez rien compris. Vous ne savez pas ce que c'est que l'écriture. L'écriture, c'est du montage. C'est comme une abeille qui butine plusieurs fleurs. Et ça, on ne l'obtient qu'avec un stabilo. Martine, ne faites jamais confiance à ces intellectuels avec leurs plumes baveuses. Ils écrivent n'importe quoi. Ce qui compte, c'est d'y voir clair. Stabilo.
Tchac.
Stabilo.
Tchac.
Regardez par exemple. Ce livre. On voit tout de suite qu'il est nul. Il n'y a rien de stabiloté. Alors que là, j'ai tout stabiloté. Ça, c'est un bon livre. C'est du lourd.
Atmosphère. Atmosphère. Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère?
Bonsoir et bienvenue dans Arrête ton cinéma. Vous écoutez RDWA sur le 107.5 FM et sur le www.rdwa.fr. Nous sommes de retour pour vous parler de politique dans notre partie 2. On a fini antifasciste la semaine dernière.
Ouais. On l'est toujours, hein. En une semaine, ça ne guérit pas.
On n'a pas guéri de notre maladie antifasciste. Mais on va vous parler de plein d'autres films. On va encore partir dans plein de pays où il s'est passé plein de choses tragiques, n'est-ce pas? Et ça a inspiré les cinéastes. Et puis voilà. On démarre avec Costa Gavras. Qu'est-ce que t'en dis?
Allez.
C'est lequel le premier de notre triptyque?
Le triptyque. Alors j'ai en 72, ça en 67. Mais Z après.
Bah Z, alors Z. Et bah écoute, Z, c'est un film de Costa Gavras qui est sorti en 69. C'est franco-algérien. Et donc ça, pour le coup, c'est l'adaptation d'un roman. Qui s'appelle Z aussi, de Vassilis Vassilikos. Et donc ça, c'est le bouquin et donc le film qui retrace l'histoire de l'assassinat du leader de la gauche,
Allez, tu vas y arriver.
Grégorios Lambrakis. Voilà, donc le film parle de ça sans jamais le dire.
Voilà, c'est ça, oui, le pays n'est jamais cité.
Il n'est jamais cité, mais dans le générique, vous avez un avertissement. Toute ressemblance avec des événements réels, des personnes mortes ou vivantes, n'est pas le fait du hasard, elle est volontaire. Là, on est dans un pays méditerranéen, c'est pas précisé, on ne le dit pas, mais on sait qu'on est en Grèce. On a un député progressiste, donc de gauche évidemment, qui est assassiné. Qui est joué par Yves Montand, tout de même. Et puis le juge d'instruction qui est Jean-Louis Trintignant. Il met en évidence un complot politique. Donc là, on est carrément sur le problème de la frontière très floue dans ce pays entre le pouvoir exécutif et judiciaire.
Juste dans ce pays.
Voilà, là, pour le coup, hein, on parle.
Oui,
de
mais c'était aussi un réquisitoire contre la dictature
des colonels.
Des colonels,
c'est
voilà.
Ça, en fait. Hein.
Voilà,
c'est
ça aussi.
C'est ce que je viens de dire, en fait. Et puis, voilà, on voit que l'armée et la police... Le juge d'instruction met en évidence voilà, que l'armée et la police ont participé au meurtre. Et donc là, on a de la musique, tiens. Tant qu'à faire.
Un petit certaki.
Non, pas du tout. Alors là.
Un certaquoi? Un certaki.
Bye.
C'est bien cette musique.
Et oui, ça nous, c'est donc un thème de Pierre-Henri.
Merci Pierre-Henri.
PH. PH.
C'est vrai, c'est réutilisé souvent dans plein de trucs, oui, finalement.
Tout à fait.
Ça nous amène au deuxième film du triptyque.
Évidemment, dans un triptyque, il y a quand même trois films.
Hein. Non.
Donc, bah oui, c'est extraordinaire.
Attends, alors un triptyque, c'est trois films. En plus, en art, c'est aussi un tableau avec trois parties. Avec voilà, deux volets et une partie principale.
Ça vient de là.
C'est fou, c'est incroyable. Triptyque, du coup,
ça vient de trois. Peut-être.
De tri, ouais, ça doit être ça.
Voilà, c'est ça.
Ptique, oula, là, il y a un partie. Petit. Tu crois vraiment que oui, ça veut dire trois?
Oui,
bah, bon, je dirais ça.
Voilà. Donc,
aujourd'hui, on a un scoop dans Arrête ton cinéma.
On a aussi un scoop, c'est qu'on est, c'est l'invasion, et pas que du FN. C'est aussi l'invasion des fourmis dans le studio de RDY.
Ouais, ouais, carrément, on peut vous le dire, on le vit actuellement, j'en ai partout, je suis englouti.
Oui, fais gaffe, parce qu'on a connu des films où on se faisait bouffer par des fourmis.
Ou des oiseaux.
Non, ou des fourmis géantes aussi. Donc il y a État de siège en 1972, donc avec Yves Montand et Jacques Weber, et toujours de Costa Cabras. Donc là, l'histoire se passe à Montevideo en Uruguay. Donc un conseiller américain et d'une junte sud-américaine est enlevé par des rebelles d'extrême gauche, les Tupamaros. Les Tupamaros. Donc évidemment, il avoue au bout d'un moment faire partie de la CIA. Ah non, la CIA, on dit FBI, mais on dit CIA. Donc il fait partie évidemment d'un programme pour lutter contre les terroristes. Donc évidemment, ses aveux sont mis au grand jour et vont évidemment bouleverser le gouvernement. Alors au début, évidemment, on croit que c'est le type, c'est une victime. Hein. Et puis au fur et à mesure des interrogatoires, évidemment, l'image du tortionnaire apparaît. Et c'est évidemment l'image du conservatisme. Alors, l'histoire est évidemment liée à Don Mitrone, qui était un agent du FBI et qui a coopéré dans plusieurs pays de l'Amérique latine et qui était un expert de la torture. Hein, voilà, c'était fort sympathique.
C'est des experts en tout. Hein.
Voilà, c'est ça, les fameux experts, mais pas ceux de Manhattan. Et qui a été tué, évidemment, par ces fameux Tupamaros en 1970. Et il y avait aussi, puisque le triptyque C3, l'aveu de Costa Gavras en 1970, toujours avec Yves Montand et Simone Signoret.
Décidément.
Voilà, d'après le livre d'Arthur London. Donc, à Prague, en 1951, un homme qui est un haut responsable tchécoslovaque est persécuté malgré son passé irréprochable. Sa femme va le désavouer en public et il est accusé d'être un espion américain. On va le torturer, l'empêcher de dormir, l'empêcher de s'asseoir. Et il avouera évidemment un texte devant, c'est les fameuses grands procès staliniens. Hein. Et puis il sera réhabilité en 1956. Il va émigrer vers la France, mais il sera quand même fidèle à ses amours politiques d'antan, au communisme, aux premiers élans du communisme. Et évidemment, c'est là qu'il va voir évidemment les...
Il n'y a pas aux staliniens.
Voilà, c'est ça. Et là, il va voir en 1956 les événements de Prague qui seront aussi refait en 1968. Voilà. Donc c'est aussi des films assez ardus, hein.
Rude, ouais.
Ouais, assez rudes. Voilà, c'est la fameuse affiche qu'on voit Yves Montand avec des goggles, hein, les lunettes rondes de d'aviateur ou de pilote de moto à l'époque, cernées de noir et avec une corde de pendu. Donc voilà, c'est vraiment
affiche.
Oui, oui, oui. Ben c'est-à-dire que la politique, c'est pas que rigolo.
C'est pas automatique.
Et d'ailleurs, la politique, c'est de moins en moins drôle quand même. Hein.
Ben, au fur et à mesure des films, oui, effectivement.
On peut toujours faire de l'humour si tu veux, mais là, il y a deux, trois sujets qui ne donnent pas à rire. Quoi.
Oui, oui.
Ben, c'est désolé. Moi aussi, j'ai deux, trois films après qui sont drôles. Enfin, malgré eux, mais un peu drôles. C'est ça.
Oui, parce que moi, j'avais les hommes
attends,
du...
Attends, bah
oui.
Non, parce que j'ai pas fini avec Costa
oui,
Gavras.
Oui, vas-y.
Tant qu'à faire, on balance tous nos Costa Gavras d'un coup.
Vas-y.
Oui, ouais. Costa Gavras. Non. Costa Gavras.
Donc on a Missing, donc Porté disparu, qui est un film américain de Costa Gavras. Ça change des films franco-algériens de Costa Gavras.
Voilà.
Celui-là, il date de 1982. Et là, c'est l'histoire vraie, du coup, du journaliste américain Charles Orman, qui disparaît à la suite du coup d'État du 11 septembre, tiens, de 73 à Augusto Pinochet.
Si, au Chili.
Charmant, voilà. Donc c'était le président, c'était Salvador Allende.
Bah oui.
Et paf, t'as Augusto Pinochet qui nous fait un coup d'État.
Aidé par la CIA.
Exactement. Et dans ce film-là, on met en évidence le rôle déterminant des autorités américaines dans le coup d'État. Donc c'est l'histoire de Charles et Beth qui vivent bien dans leur quartier, dans un quartier de Santiago du Chili. Et puis le 11 septembre 73, du coup, voilà, on a le coup d'État du général Pinochet et Charles, qui est un journaliste, qui découvre la présence un peu préoccupante, surprenante, du conseiller, enfin de plusieurs conseillers américains sur le sol chilien. Et du coup, il disparaît étrangement, le Charles, le journaliste, parce qu'il s'est rendu compte de quelque chose, peut-être, dis donc. Donc son père, qui est américain, il part à sa recherche, quoi. Voilà. Donc on a dans ce film-là, on a John Shi. Alors quand j'ai vu le truc, je me suis dit qu'est-ce que c'est, que c'est pas possible, parce que moi, pour moi, John Shi, c'est Lex Luthor dans Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman.
Et oui.
Ben, il a fait des grands films, ce gars, t'imagines ?
Bah oui.
Voilà. Tu te rappelles ou pas, Anna ?
Le chauve là.
Ah non, ça c'est bon. Là, on n'a pas le même âge. Hein.
Parce que moi, Superman, pour moi, le début de Superman, c'est Smallville, quoi, tu vois.
Alors, pour Smallville, caca boudin, on s'en fout. Mais la série dont je parle, elle est pourrie aussi, donc c'est pas le problème.
Ah oui.
Mais c'est Lois et Clark avec comment elle s'appelle.
Mais je l'ai vu ça
là.
Aussi, ouais.
Ah oui, oui, oui.
Celle
oui.
des Desperate House.
J'ai vu voilà,
un
c'est
épisode
ça.
De bon,
voilà.
Ça.
Moi, je regardais ça quand j'étais
avec
enfant.
Superman qui a son rayon laser et tout ça.
Oui, la fameuse journaliste qui est superbe, qui il s'est pas remarqué que son mec avec des lunettes et
sans
et,
lunettes et,
voilà,
c'est le même.
C'est le même.
Elle est tout à fait idiote, mais en même temps comme tous
oui,
les
c'est,
gens.
C'est
de
Suzanne de Desperate Housewives.
Voilà.
Oui, et d'ailleurs c'est là la fameuse, parce qu'il y a dans une série où il passe dans le futur et il rencontre quelqu'un qui dit mais vous étiez complètement débile, vous disiez journaliste et vous vous rendiez même pas compte que Superman c'était Clark Kent.
Bah voilà. Enfin bref, John Shi c'est lui et c'est aussi du coup un personnage de Missing. Voilà, je vous le conseille parce qu'il est bon. On a des trucs, on n'a pas de la vérité en fait là-dessus encore. Hein.
Oui, oui. Bah, c'est-à-dire qu'il faut savoir que Allende, quand il est arrivé au pouvoir, voulait tout nationaliser les grandes entreprises qui étaient américaines. Et, et d'un coup, bing, eh ben dis donc, il y a un coup d'État et après, hop. Eh ben c'est tout privatisé, dis donc.
Dis donc,
c'est
tout
ballot,
c'est tout
ça.
Hein. En tout cas, il y a un corps que le gouvernement chilien a rendu à la famille à la fin du film. Hein. C'est une scène de la fin du film. Désolé. Hein. Mais en fait, du coup, je vous fais pas un spoiler vilain. C'est que y a des analyses ADN qui ont été faites et c'était pas du tout le corps de Charles Orman. Voilà, donc ils ont rendu un autre corps. Ouais, ils arrivent toujours à s'arranger.
Bah oui.
Et donc l'enquête continue en fait. Il y a toujours des membres de la famille de Charles qui continuent d'enquêter et de chercher à savoir ce qui est arrivé exactement à Charles et où il est et où est son corps et voilà.
C'est-à-dire qu'à l'époque, souvent, on leur faisait faire un petit tour d'hélicoptère au-dessus de la mer.
Ah bah
pour les retrouver, ça va être un peu costaud quand même.
Ouais, enfin,
oui, parce
cas,
qu'il y a beaucoup d'associations de parents disparus qui se font au Chili. Donc.
Ah bah là, oui, parce qu'il y en a un paquet de gens qui ont disparu.
Oui, oui, non, mais il me semble qu'il y avait un film documentaire là-dessus aussi.
Oui, oui j'en ai
assez ardu.
Voilà.
Donc, justement, tu parles de journalisme. Eh ben, j'ai un film justement sur des journalistes, Les Hommes du Président, d'Alan J. Pakula en 1976. Donc c'est l'enquête de Carl Bernstein qui est joué ici par Dustin Hoffman et de Bob Woodward, donc Robert Redford.
Oh,
voilà, qui sont donc deux reporters du Washington Post et qui révèlent le fameux scandale du Watergate qui aboutira évidemment à la démission de Richard Nixon, Ricky le Roublard en 1974. Alors tout se passe en juin 1972. Cinq personnes entrent par effraction dans le quartier général du Parti démocrate. Donc le parti adverse, puisqu'on est en période d'élection. Et là, ils sont repérés par un agent de sécurité et ils sont arrêtés par la police. Et là, il y a trois Cubains, un type, voilà. Par contre, il y a James McCord, qui est un ancien du FBI et un ancien de la CIA. Et évidemment, qui fait aussi partie des fameux membres de la réélection de Nixon. Ce n'est pas vraiment des cambrioleurs, mais ils étaient surtout là pour poser des mouchards. on va faire une petite enquête, on va dire que ouais, c'est bon, allez, laisse tomber. Et c'est là où là, les deux journalistes vont commencer à enquêter et ils seront aidés par ce fameux indic qui s'appellera Gorge Profonde, voilà, puisque c'est évidemment l'époque du film et qui est leur source. Et alors, évidemment, par contre, le film ne couvre que 7 mois de l'affaire qui évidemment commence par l'effraction du fameux immeuble, le Watergate. D'où le nom du Watergate. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que maintenant, dès qu'il y a un scandale, c'est il y a Gate derrière. Il y avait le Monica Gate, voilà. Et ben voilà, c'est parti de
c'est
là.
C'est vrai ça.
Voilà, et c'est ça. Et ça va jusqu'au à la réélection de Nixon, puisqu'il va être élu, et puis il sera obligé à être poussé à la démission. Et ça me fait penser aussi à un petit truc un peu comique dans les Watchmen, qui évidemment se passe ensuite à la troisième élection de Nixon. Donc là, on est dans un monde alternatif. Il y avait le fameux personnage de Rorschach qui avait attrapé les deux journalistes, donc il n'y avait pas eu d'enquête, et donc c'est pour ça que Nixon avait été réélu. Et ils disent qu'il valait mieux réélire Nixon que de laisser passer les communistes. Donc voilà, le fameux Ricky le Roublard. Ce qui me fait bondir sur un film de Robert Redford qui s'appelle Sur Surveillance avec Shia LaBeouf, qui est sorti de ses Transformers, et Suzanne Sarandon. Donc en fait,
quand même, Shia LaBeouf, c'est quand même le fils de Indiana Jones quand même.
Oui, c'est vrai aussi, puisque Robert Redford avait fait les fameux 3 jours du Condor, donc sur, là aussi des histoires sur la CIA. Et en fait, donc Sur Surveillance, ça se passe en fait, c'est après un attentat d'un groupe des Weather Underground en 1969 qui luttait contre le Vietnam et qui a eu, hélas, mal tourné cet attentat. Donc il y a des gens qui ont été arrêtés et d'autres qui ont totalement disparu, et jusqu'à l'arrestation de Sharon Solraz, qui est ici jouée par Suzanne Sarandon.
Est-ce qu'il y a des attentats qui tournent bien, Gwen?
Non, non, c'est-à-dire qu'on peut faire des mais on peut faire des attentats sans faire de victimes. Et là, malencontreusement, il y a eu une victime. Et donc,
c'est quand même hyper rare de faire un attentat sans qu'il y ait de victime.
Ah non, il n'y en a pas. Si. C'est juste qu'on entend moins parler.
Si, il y a eu beaucoup de terroristes qui faisaient des attentats, qui faisaient détruire des immeubles encore.
Les terroristes, souvent, puisque selon leur nom, terroristes, n'est-ce pas, veulent mettre la terreur, n'est-ce pas? Donc, tue des gens, généralement, ça va avec. Après, on a des attentats qui sont plus politiques et qui sont plus revendicatifs, et je pense notamment aux anarchistes. Bah. Et il y avait très peu de victimes, en fait, des attentats anarchistes.
Voilà, c'est ça.
C'est assez rare.
Oui,
que
mais
ça
voilà, c'est ça. Bah, après, soit on terrorise, c'est-à-dire qu'on fait sur des cibles mouvantes, hein, sur par exemple, des gens très haut placés, hein, ce qui avait été les Brigades Rouges en Italie. On avait désingué des types de haut rang, comme on dit. Et puis, il y avait aussi le François Ferdinand et les tsars en Russie aussi, hein, puisqu'ils c'était les cibles de nombreux anarchistes.
Du coup, François Ferdinand, c'est quand même un mauvais exemple parce que ça déclenche la Première Guerre mondiale.
Oui, mais voilà. C'est-à-dire que c'est ciblé. Soit on cible sur quelqu'un, soit on fait des attentats qui détruisent des lieux républicains, voilà, sans faire de victimes parce qu'on ne veut pas rentrer là-dedans. Soit
oui, donc
il y a carrément.
C'est bien le mot attentat qui pose problème, voilà, parce que je suis d'accord avec vous, mais pour moi, attentat, ça voulait vraiment dire terroriste plus bombe égale mort. Quoi.
Regarde, il y a le fameux film Munich sur les événements des Jeux Olympiques où les Palestiniens avaient attaqué les athlètes israéliens, et la police allemande était intervenue, il y avait eu des morts, et c'est là où Golda Meir en fait a décidé de créer un groupe caché et qui partirait à la recherche de tous ceux qui étaient liés au groupuscule Septembre Noir, et carrément elle est dessoudée, quoi. Donc voilà, le film Munich, là aussi un film assez ardos aussi.
Assez rude.
Assez rude, oui.
T'avais fini sur ton film avec Shia LaBeouf.
Ben en fait voilà, et en fait ça va attirer cette histoire va attirer l'attention d'un petit reporter, donc Shia LaBeouf, et qui va l'amener à rencontrer un fameux avocat d'une petite ville qui est joué ici par Robert Redford, mais qui évidemment cache une double identité. Voilà.
Donc,
mais il est très bien fait ce film aussi, et là ça parle évidemment de qu'est-ce qu'on est capable de faire pour ses idées et des dommages collatéraux que cela entraîne sur sa vie et surtout sur la vie de ses proches aussi.
Ça parle de ce dont on est capable de faire.
Ouais.
Non, j'aime bien ta syntaxe du jour. C'est qu'est-ce que je dis, Gwen.
Ouais, c'est qu'est-ce qui n'a pas écouté à l'école aussi.
Qu'est-ce qui n'a séché tous les cours.
Voilà, c'est ça.
Là. Anaëlle, t'as...
Et ce film, Les Hommes du Président, c'est devenu un film icône. Donc voilà.
Bah attends, on en était dans un autre film, là.
Oui, oui, oui.
Parce que Les Hommes du Président, Shia LaBeouf, il n'était même pas né.
Ah non, non, mais voilà, c'est ça. Non, mais ça me fait penser, puisque Sous Surveillance, c'est un film de Robert Redford. Robert Redford
qui jouait
fait...
dans Les Hommes
voilà,
du Président.
Voilà, c'est ça.
Et
pour moi, ça a trop, tu vois, là, ça a trop serpenté, j'ai décroché.
Eh bien, moi, j'ai fait un résumé. On vous parlait des Hommes du Président, un film de 76 avec Robert Redford. Ça a fait rebondir l'ami Gwen sur un film de Robert Redford. Qui
voilà.
S'appelle donc
Sous Surveillance.
Sous Surveillance.
Ben oui, parce que...
Ah oui, mais oui, d'accord. Du coup, en fait, je l'ai vu.
Ah, en plus.
mais voilà, j'avais pas compris que tu parlais de ça.
Ouais, c'est pas grave.
C'est
pas grave. Déjà, tout petit, on comprenait pas ce que je disais.
Je la dénonce. Elle lit un magazine pendant que nous, on travaille.
Voilà,
mais
c'est
parce
génial.
Que, et je lis un magazine qui s'appelle Studio Ciné Live. Et j'ai,
merci la pub
voilà. Et j'ai lu première la semaine dernière. Et voilà. Et donc, si vous voulez, je peux même vous parler de ce que je lis parce que c'est un rapport avec ce qu'on dit.
Et ben, tu sais quoi, à la fin, tu peux nous faire une petite revue de nouveautés, si tu veux.
Voilà.
Ce serait bien qu'on fasse ça de temps en
aussi.
Temps.
Aussi. Oui, c'est vrai. Bah, s'il y a un film qui vous tient à cœur, moi, je ne suis pas contre.
Pas de souci, on en parlera plus tard parce que là c'est vrai que ça va un peu couper dans notre
élan.
Élan politique, la politique.
Au cinéma, vous écoutez toujours RDWA sur le 107.5 FM et sur le www.rdwa.fr. Arrête ton cinéma, aujourd'hui la politique, deuxième partie. C'est parti mon kiki.
C'est à moi ?
Oui, c'est à toi.
Alors moi, trop de paroles, tue la parole.
Super.
Je vais vous mettre une chanson qui va vous mettre sur la piste de mon film. Rwanda, Rwanda, yeah, yeah. Rwanda, Rwanda, they said many are called, a few are chosen, but I wish some wasn't chosen. For the blood spilling of Rwanda, eh. They set me shocking up in they go. Thrown in the fire, but you never get burned. But I wish some didn't get burned in Rwanda, eh. They said a man is judged according to his works. So tell me, Africa, what's your worth? There's no money. No diamonds, no fortunes on this planet that can replace Rwanda, Rwanda, Rwanda. Yeah. These are the cries of the children. America, it's the United States of America, then why can't Africa be the United States of Africa? Rwanda, Rwanda. And if England is the United Kingdom, then why can't Africa unite all the kingdoms and become the United Kingdom of Africa? Rwanda, 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 Rwanda. Yeah. Yeah. Alors. Oui, bon, c'était un peu abrupt, je suis désolée. Mais vous pourrez aller écouter Million Voices. De la BO de Hôtel Rwanda. Alors, Hôtel Rwanda, comme son nom l'indique, c'est un film qui parle du génocide au
Rwanda.
Ouais, et le Rwanda, c'est un pays en Afrique.
Oui, tout à fait.
Voilà, alors l'Afrique et la politique.
Oui, c'est vaste. Ouais. On aurait pu faire une émission, 8 émissions entières.
Mais on pourra faire effectivement un diptyque sur l'Afrique, je pense qu'il
y a
de quoi faire.
Oui,
là, je vais parler que du volet politique. La politique en Afrique, c'est très compliqué. Ça vient beaucoup du fait qu'on est allé mettre notre nez dans leurs affaires. Même notre pied, même on s'est un peu jeté à corps perdu.
Dedans, même que plus tôt on s'est installé dans les draps et qu'on n'a plus jamais bougé.
C'est exactement ça. Et que ceux qui
nos
disent que
colonies.
La France-Afrique et les anciennes colonies, moi, ça m'agace beaucoup parce qu'en fait, c'est
on
nos colonies.
En,
hein.
Encore.
Nous sommes des colons.
Enfin,
et
nous, non.
Alors,
la
moi,
France
personnellement,
et les
non.
gouvernements occidentaux, parce
mais
que moi, j'y suis pas.
Les politiques sont encore dans cette démarche. Et il y a beaucoup d'Européens, hein, de citoyens européens, qui ont encore des réactions de colons. Et voilà, la dictature, le totalitarisme, etc., c'est même plus... Voilà, c'est comme ça, c'est horrible. Et au Rwanda, ben, si vous ne le savez pas, il y a même eu des problèmes tellement affreux qu'ils ont quand même tué pratiquement la moitié de leur population, hein, voilà,
oui.
Dans un génocide, une guerre civile
oui,
complètement interne.
Voilà, entre deux
rappelle-moi
ethnies.
Rappelle-moi le nom des ethnies.
Les
Hutus
et les Tutsis.
Voilà, c'est ça.
Voilà, et j'en parle, et ça me tient particulièrement à cœur de parler de ce film, parce que c'était l'anniversaire de la fin du génocide il y a 2 semaines, et que le président actuel rwandais a accusé, avec raison, c'était même pas vraiment une accusation.
Il
hein,
a demandé plutôt de
Il a demandé aux
de
pays européens et à la France particulièrement de reconnaître sa responsabilité dans le génocide rwandais, alors sachant que la responsabilité elle est simple, on leur a donné les armes et on leur a dit de se taper dessus. Hein.
Oui, enfin disons que...
Et puis on a envoyé personne pour les calmer aussi.
Oui,
hein,
mais c'est-à-dire qu'on avait mis une ethnie en place et avec tous les pouvoirs, et donc forcément l'autre a été jalouse et...
Ouais,
une fois qu'ils
ça
ont
va
eu
même
le
un peu plus loin que ça. Moi, quand les politiques français balancent des armes, balancent du fric...
Ah oui, non, mais ça, bien
voilà,
sûr.
Voilà, pour moi, la responsabilité, elle n'est pas limitée
oui, mais
du
ça,
tout.
Ça,
et qu'a fait François Hollande ?
Et qu'a fait François Hollande ? François Hollande s'est insurgé contre ce discours. Il a dit « Quoi ? Non, pas du tout !» Et François Hollande et tous les autres débilos qui étaient derrière, parce que du coup...
Ils sont partis en scooter.
Même l'ambassadeur...
François Hollande, il est le chef des armées, et il doit les garder dans sa poche, et donc reconnaître ce genre de choses, ça le met en porte-à-faux. C'est
ouais,
très simple.
C'est ça aussi,
et
ouais.
Quand on parlait de la séparation entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire tout à l'heure, c'est pour ça que ça me fait beaucoup rire, parce que voilà, François Hollande s'insurge, tout le gouvernement s'insurge, et du fait, beaucoup de Français s'insurgent en disant « Quoi ? On salit l'honneur de la France !» Alors l'honneur de la France, il a bon dos, parce que... Alors ça, c'est une quelque chose qui m'agace aussi avec les anciens de la FNACA, enfin bref.
Voilà,
ça,
oui.
ça dépasse
ah oui,
encore le
vrai.
Truc,
oula,
mais
oui.
L'honneur français, c'est quand même compliqué en Afrique, et au moins dire ouais pardon les gars, c'est vrai qu'on a fait les cons, ça leur aurait pas arraché la gueule. Et l'ambassadeur de France au Rwanda est allé quand même déposer une gerbe de fleurs sur le monument parce qu'il est ambassadeur de France au Rwanda et qu'il a une certaine conscience des choses, mais il n'a pas eu le droit de le faire en l'honneur de la France, et je trouve ça encore plus calamiteux, encore plus déplorable. Donc pour en revenir à Arrête ton cinéma, il faut que vous voyez absolument Hôtel Rwanda si vous ne l'avez pas déjà vu. C'est un peu long, mais ça raconte l'histoire d'un homme qui... bon, c'est une histoire vraie, forcément. C'est un héros, forcément. Et il a sauvé plein de gens. Mais surtout, ça illustre pas mal ce qui s'est vraiment passé. Et après, si vous en avez pas encore assez vu et si vous n'êtes pas vraiment convaincu, vous pouvez taper juste sur YouTube, parce que c'est pas vieux, hein, donc génocide rwandais, les choses comme ça, puis vous allez avoir des images d'archives, des choses qui sont vraiment sympas,
oui,
mais qui sont pas de la fiction,
puis
on prévient, quoi.
Et
voilà.
Puis vous pourrez en parler au chanteur Corneille puisque
Corbeil et Sonne,
oui, parce que lui il est issu de ces massacres, voilà,
voilà, et c'est des massacres qui peuvent réavoir lieu et qui voilà. Les génocides, c'est pas... Et Hôtel Rwanda, c'est pas mal. Et c'était d'actualité, puisqu'ils m'ont vraiment beaucoup énervé ces derniers temps. Et j'aimerais que la France reconnaisse ses responsabilités dans les drames africains, en règle générale.
Oui, tout à fait.
Tout à fait. Et on va pas faire comme Sarkozy, qui voulait qu'on reconnaisse le côté positif de la colonisation.
Ah oui, non, on va pas faire ça.
Oui, bien sûr. Merci, monsieur l'homme blanc.
Voilà.
Pour être gentil.
Vous voyez bien, donc, maintenant vous avez des chaussures avec des semelles en plastique grâce à nous.
Ouais, et des voitures, hein.
Donc je continue parce que j'ai tapé sur la France, je tape régulièrement sur la France, c'est mon pays. Voilà, la France, tu l'aimes ou tu la quittes? Bah en fait non, parce que je l'aime et du coup j'y reste et je me bats pour qu'elle,
qu'elle avance. Oui. Et qu'elle se corrige surtout.
Tout à fait, donc la France, ah saleté, tapons-lui sur les doigts. L'honneur de la France, berk. Et puis là, on peut parler du coup du film qui s'appelle Le Dernier Roi d'Écosse.
Ah oui.
Alors là, on est moins dans les influences françaises, mais on est plus dans les influences britanniques.
Bah oui.
C'est l'histoire d'un dictateur ougandais qui est fan, mais fan de la culture écossaise. Mais vraiment, hein, il se renseigne. Et puis, il y a un jeune médecin qui est joué par James McAvoy, qui est un de mes chouchous, je l'adore. Il joue Professeur Xavier Jeune dans X-Men.
Voilà.
Tout à fait, tu vois. Lui, il a vu. Toi, tu vois.
Oui, oui.
Donc lui, je l'adore. Et c'est un jeune médecin. Il part en Ouganda pour faire de l'humanitaire, hein, clairement. Et puis un jour, il rencontre ce dictateur et il est charmé par le charisme de ce monsieur. Mmh. Et du coup, comme il est écossais et que le dictateur il est absolument fasciné par l'Écosse, ils deviennent presque amis. Et il rentre dans le système, il devient son médecin personnel. Et il rentre dans l'envers du décor de la dictature en Ouganda.
Là, on n'est plus trop dans l'humanitaire, du coup.
Oui, voilà.
Alors là, on n'est plus du tout dans l'humanitaire. Ça devient très, très, très dur. Il est face à des conflits d'intérêts vitaux. C'est-à-dire que si je reste, je tue des gens, si je pars, je meurs.
Voilà.
Mais je peux pas rester en pâturant de gens, je peux pas vraiment le plomber. C'est pas un film où on se rend compte que finalement il va réussir à manipuler de l'intérieur et qu'il va gagner. Non, il va vraiment se rendre compte que c'est tout pourri, qu'un seul homme fou, Barjot, peut mettre un pays, des populations dans la détresse. Parce que là on parle de politique, mais la politique c'est pour. Les gens. Et
voilà, c'est ça. Oui,
c'est au service des gens.
C'est au service des gens. Et là, la prise de pouvoir de ce dictateur est terrible. Et même quelqu'un de cultivé, d'intéressé et d'intelligent n'arrive pas. Enfin, a des conflits face à cette personne qui est d'une abominable, sans nom.
Et il est joué par Forest Whitaker.
Oui, très bien joué. Ouais. Et c'est rigolo parce qu'au départ, on a vraiment ce côté dictateur qui arrive dans sa grosse bagnole, qui regarde la télé et qui adore faire des matchs de sport, de foot, de machin, de bidule avec la population. Et après, on se rend compte qu'en fait, pour le pouvoir et pour l'argent... On confirme ce qu'on savait.
Film, ouais.
Et puis, y a aussi, c'est rigolo, parce que le film met en avant le fait que l'Europe finance ce genre de personnes.
Bah oui.
Non.
Si. Ah, mais en échange de diamants.
C'est-à-dire qu'il vaut mieux parler à un type qu'à une population entière, qui en plus a tendance à changer.
C'est surtout que quand tu dis à une population entière, on va vous faire trimer dans les mines, du coup vous allez crever, et puis nous on va se faire plein de diamants sur votre dos. C'est un peu l'histoire de Blood Diamond.
Voilà aussi, oui.
Et puis vous allez crever, ça va pas marcher. Alors que si tu parles à un type et tu lui dis. Ta population, elle va crever, mais toi, tu vas te faire plein de fric, et nous aussi.
Et puis, on peut aussi même enterrer nos trucs nucléaires ou certains produits trop polluants qu'on n'a pas envie sur nos territoires. Et ben, on vient chez vous et puis on roule.
De toute façon, il n'y a rien en Afrique.
Bah non. Que dalle.
Est-ce qu'on n'est plus en Afrique, là?
Est-ce qu'on n'est plus en Afrique? On part d'Afrique, vous pouvez partir d'Afrique.
Bon, moi, je vais aller un peu en France, vite fait, alors.
Ouais. Vas-y.
On dit ouais, d'accord. Ouais. Bon, Président, le film français de 2006 de Lionel Delplanque avec
ton Albert Dupontel.
Mein lieber Albert.
Ah, le grand Albert.
Albert, si tu nous écoutes, on parle encore de toi.
Encore. Voilà. Ça change, c'est que le début.
Ah, bah oui. J'ai réussi. Ouais. La prochaine fois d'ailleurs, il va y être. Ils vont faire une version française. Ce sera Albert Dupontel.
Ah oui, chic.
Le diable.
Bon, alors là, en gros, il est pas simple ce film.
Non, il est assez compliqué.
Oui, on est d'accord. Hein. Parce que du coup, essayer d'en faire un résumé, là, c'est plus compliqué que ce que je croyais. On a un drame avec un avion qui s'écrase dans les Alpes.
Voilà.
Et puis de l'argent liquide, étrangement. Et donc on a le président qui est un peu dérangé par ce fait divers, donc. Et puis, mais il anime la curiosité de Mathieu, donc, qui est un étudiant en économie, qui a fait l'école polytechnique, qui est issu d'un milieu populaire. Et en gros, tu as une histoire avec ce Mathieu qui va séduire la fille du président et ça va chercher dans les enquêtes.
Enfin, voilà, c'est-à-dire que voilà, il se fait entraîner dans un milieu qu'il connaît peu et voilà, avec des intérêts énormes. Et voilà, entre son beau-père, on va dire, sa fiancée et l'État français, il va falloir qu'il...
Oui, c'est ça, c'est qu'il y a un problème de permission, de surveillance.
Voilà, et puis il est pas tout à fait clair, des fois, le Mathieu.
Bah voilà, c'est ça. Et puis, ouais. Voilà, et puis l'Albert Dupontel aussi. Hein, il est
bah
pas,
oui.
C'est
pour l'occasion. Pas clair.
Est-ce que tu peux vraiment arriver au pouvoir, être président d'un pays, dirigeant d'un pays, en étant complètement blanc?
La réponse, non.
Bah ouais,
non, c'est pas possible.
Forcément, t'es un peu un enculé, quoi.
Je dirais pas ça, mais t'es obligé de faire des compromis. Et d'ailleurs, tu me fais bien de m'en parler, puisque là, je vais me lancer sur le Lincoln de Steven Spielberg.
On a arrêté de rebondir, ouais. On se lance maintenant.
Voilà, c'est ça. Et oui, parce que ça faisait des taches sur les murs. Donc, en 2012, puisque là, pour l'occasion, Lincoln ici joué par Daniel Day-Lewis, ce qui est assez bizarre, puisque dans Gang of New York, il jouait Bill le Butcher, et qui lui, par contre, était carrément l'antithèse de Lincoln. Donc, ce film va débattre sur les derniers mois du 16e président des États-Unis, de la fameuse bataille pour abolir l'esclavage et en même temps de finir avec la guerre de sécession qui a cessé, c'est sûr. Donc voilà, et évidemment pour faire passer ce 13e
en bande. Qui a cessé, c'est sûr.
Oui, qui a cessé, c'est sûr. Et c'est même certain. Et d'ailleurs, donc pour faire passer ce fameux 13e amendement, il lui faudra jouer avec les fameux sénateurs, les faire changer d'avis, puisque pour l'occasion, on a un président républicain, donc Lincoln, et qui va devoir jouer contre les démocrates, et donc faire tourner certains sénateurs démocrates pour qu'ils votent 8-8 à ce fameux amendement, en sachant que évidemment, il y a aussi la fin de la guerre qui est en jeu. Alors là, pour l'occasion, c'est un film assez long, très bien fait. Mais alors, par contre, on se retrouve, pour nous autres Français, dans un univers impitoyable qu'on ne connaît pas. Parce que pour nous, toutes ces histoires de sénateurs, pour nous, c'est un véritable mystère. Il y a beaucoup de personnages qui, pour les petits Américains et pour les Américains qui ont un peu de culture, disent tout de suite quelque chose. Mais pour nous, c'est un véritable mystère. Je répète.
On manque de référence.
On manque sérieusement de référence. Puisque là, il y a un des adversaires, enfin un adversaire, mais du même camp que Lincoln, et qui va jouer pour et contre lui. Il y a les ultra-conservateurs républicains qui préfèrent que la guerre s'arrête, mais qui ne veulent pas du 13e amendement, surtout si cela peut retarder la guerre. Alors, ce qui est assez risible, c'est qu'à un moment, forcément, il y a des... Parce que pour nous autres, les démocrates représentent un peu plus la gauche que les républicains, puisque les républicains, c'est un peu George Bush, hein, père et fils. Donc pour nous autres, voilà.
Nous autres.
Pour nous autres, européens. Et voilà. Et moi, il y a vraiment un passage qui est quand même, entre guillemets, comique. C'est-à-dire, à un moment, il y a un des démocrates qui dit « Non, mais vous voulez quoi ?» Puis, alors, à ce moment-là, si vous voulez les abolir l'esclavage, ils vont être égaux vis-à-vis de nous. En plus, c'est l'œuvre de Dieu. Dieu a fait les Noirs pas comme nous, donc ils sont en dessous. Et puis, c'est quoi d'autre? On va leur donner le droit de vote. Puis, pourquoi pas le droit de vote aux femmes? Et alors là, t'as carrément tout le monde qui crie. Alors, voilà, c'est extraordinaire.
Ouais,
voilà, c'est ça. Non, non, mais...
La porte ouverte à toutes les fenêtres.
Voilà, c'est ça. Et
de toute façon, d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on dit une connasse, c'est pas un connasse.
Ouais.
Et on peut même dire une espèce d'iconasse. Mais bon, voilà, ça c'est autre chose. Donc voilà, il est franchement très bien fait. C'est évidemment dans le souffle épique de Steven Spielberg. On a une très belle image aussi de Lincoln vis-à-vis de son épouse et de son enfant aussi disparu, puisqu'il a un enfant qui est mort jeune et qui a quand même pesé lourd sur ce couple. Évidemment, le film finit évidemment avec son assassinat en 1865. ce qui me fait rebondir sur, et puisque là on est sur rebondir sur un autre président qui a été assassiné, JFK d'Oliver Stone. Donc là par contre, bon, pour l'occasion, le JFK est déjà dessoudé au début du film, puisque
dessoudé,
oui, il a été dessoudé. Il est tombé le 22 novembre 1963 à Dallas. Et en fait, l'histoire parle de Jim Garrison, qui est donc le procureur de la Nouvelle-Orléans et qui remet en cause le fameux rapport Warren, puisque pour lui, Lee Harvey Oswald est un coupable trop parfait, et d'autant plus qu'il n'a pas pu faire cette exécution tout seul, et donc il va commencer à enquêter. Il va comprendre rapidement que le FBI, la CIA et le Pentagone ont eu un rôle déterminant dans cette affaire, puisqu'il faut savoir que derrière le FBI, il y a Edgar Hoover, et qui était opposé à John Fitzgerald Kennedy, puisqu'il avait débuté la guerre, mais il voulait l'arrêter. Et évidemment, les industries militaires, eux, étaient absolument contre. Ce qui fait qu'une fois que JFK a disparu, et ben, Dwayne Johnson a ouvert la manne. Et là, on a pu envahir le Vietnam avec le sort qu'on connaît. Et c'est depuis d'ailleurs le JFK que aussi il y a toute une histoire anti-gouvernementale. Et c'est là où sont parties toutes les histoires de théories du complot. Donc voilà, donc comme Lincoln, comme John Fitzgerald Kennedy, qui étaient aussi deux camps divers différents, puisque il me semble que JFK était démocrate, catholique, donc Lincoln est lui, je pense, plutôt protestant et républicain, mais l'un comme l'autre, ils ont montré un visage entre guillemets idyllique des États-Unis, puisque évidemment Lincoln a lutté pour l'abolition de l'esclavage, pour que les gens soient égaux en droit, et que John Fitzgerald Kennedy représentait aussi une nouvelle image de l'Amérique, et voilà, et qui est tombé et qui a donné évidemment toute cette politique industrielle militaire et surtout l'argent roi, puisque après on a eu Nixon et après on a eu Reagan, l'ami de Thatcher.
Mon Dieu. Moi je trouve qu'on n'a pas parlé de Russie, c'est bizarre.
C'est parce qu'on est fâché avec.
Parce que moi j'ai vu un film il y a pas longtemps à la télé, pendant 5 heures, ça dure 5 heures. T'as un gars tout seul qui fait un discours.
Ah oui, quand même.
Ouais, c'est Vladimir Poutine.
C'était pas vraiment un film.
Bah, alors moi j'ai la version cubaine, 8 heures avec Fidel Castro.
Ça pourrait faire office de fiction dystopique. Pour le coup.
Oui, oui, oui.
Mais en fait, non, c'était vrai.
Bah, c'est-à-dire qu'il y a aussi, il y a beaucoup de films, bon, notamment sur Staline. Donc là, par contre, j'ai pas de titre. J'avoue que j'ai peu recherché sur le film.
Vous n'avez plus
film.
Qu'à le faire, chers auditeurs d'Arrête ton cinéma sur RDWA. Vous n'avez plus qu'à le faire et puis à commenter nos émissions sur la page d'Arrête ton cinéma.
Oui, ça, c'est sûr. La page Facebook.
Ça, c'est sûr.
La page Facebook ou directement les commentaires sous les émissions.
Voilà, tout à fait.
Puisque
oui.
Toutes les émissions sont en réécoute gratuite et illimitée sur le site www.rdwa.fr.
Tout à fait. Et oui, on n'a pas parlé de Russie, mais on n'a pas parlé de plein de pays.
Voilà, c'est ça. La Chine non plus, d'ailleurs.
La politique, c'est
bah
compliqué.
Ouais, bah, là, là. Ouais.
Moi, je vais vous parler d'un pays dont on n'a pas encore parlé, c'est l'Iran.
Oui, aussi, oui.
Voilà une bonne idée.
Voilà une bonne idée. Alors, l'Iran, à travers le film Persepolis de Marjan Satrapi, qui est sorti en 2007, c'était une bande dessinée qui avait été dessinée par Marjan Satrapi. Et c'est sur la vie de Marjan Satrapi.
Nom de Dieu.
C'est fou. Donc,
une autobiographie, en somme.
En somme, tout à fait. Et donc, dans le film, dans le doublage, parce que le film est un dessin animé, donc. Dans le doublage du film américain, il faut savoir que c'est Iggy Pop qui fait la voix de l'oncle et que c'est Sean Penn qui fait la voix du père de Marjan Satrapi.
Wow.
Voilà, donc on est quand même sur un film médiatisé.
Oui.
C'est un film qui parle de l'Iran et de donc ils ont eu une révolution, ils avaient leur fameux dirigeant le Shah.
Oui.
Et voilà. Et ils ont fait la révolution. Ils se sont dit, ouais, on va être tranquille maintenant. Et ils se sont pris des extrémistes dans la gueule.
Ouais, il y a le Rominé.
Voilà. C'était très compliqué la vie. Et en fait, Marjan Satrapi réussit à nous faire sourire et même rire aux éclats en nous racontant sa vie de jeune adolescente en Iran. Et là, du coup, j'ai un extrait sonore qui me fait mourir de rire. Est-ce que vous êtes
prêts ? Merci, parce qu'il n'est pas visuel.
La dame avec le sac en bandoulière, arrêtez de courir. La dame avec le sac, arrêtez de courir. Et toi, ne cours plus.
Ma Madame, pourquoi couriez-vous ?
Je suis en retard. J'ai cours dans 5 minutes.
Oui, mais faut pas courir comme ça. Quand vous courez, votre derrière, il fait des mouvements. Comment dire ? C'est impudique.
Eh ben, vous avez qu'à pas regarder mon cul !
Voilà.
Okay.
Ouais, c'est vrai qu'on peut rire.
Voilà, donc vous avez qu'à pas regarder mon cul. Et puis, alors Marjane Satrapi, c'est une féministe. Elle a eu la chance d'avoir des parents qui ont eu les moyens et qui ont eu l'idée de l'envoyer en Europe, en Autriche et puis en France pour faire ses études. Donc elle a pu rencontrer d'autres choses. Elle avait des parents qui étaient éveillés politiquement parlant,
oui, voilà.
Qui c'était pas la chance de tous. Mais du coup, elle a quand même un attachement à l'Iran qui est son pays, dans lequel elle a grandi et qui sera toujours son pays. Et elle se révolte, je pensais, avant de connaître l'œuvre de cette dame, que les nanas voilées en Iran, elles fermaient leur gueule, quoi, parce qu'elles avaient que ça à faire. Et en fait, non, il y a des féministes, bon là on les voit sortir et être médiatisées, mais il y a des féministes depuis longtemps, qui, dans les réunions publiques où on leur dit que c'est indécent la manière dont elles s'habillent et qu'il va falloir rallonger de 20 cm leur voile, qui s'insurgent en disant « Non mais c'est pas possible, eux ils s'habillent comme ils veulent, qu'est-ce que vous en avez à foutre de notre habillement ?» Enfin voilà, donc du coup, ce film est très drôle et en même temps d'une brutalité assez incroyable,
oui,
mais très beau esthétiquement parlant, puisque c'est donc un dessin animé avec les dessins de Satrapi qui sont magnifiques.
Voilà, c'est surtout du noir, du gris et du blanc, si je me rappelle bien.
Il n'y a pas vraiment de gris.
Ouais,
c'est surtout du noir et blanc, très contrasté, avec de temps en temps quelques couleurs très passagères.
Non, moi, j'avais adoré ce film.
Voilà, un film, donc, que je l'ai dit, peut-être de 2007. Ouais. Donc ça commence à dater déjà.
Bah oui.
Et puis ça nous apprend le... bien comme il faut ce qui s'est passé en Iran, pourquoi, comment, et allez-y, sortez-vous-en.
Voilà, tout à fait. Et ben moi j'ai deux films, puisque là on a parlé de l'Iran, on a parlé des États-Unis, on a parlé de la France. J'avais El Divo de Paolo Sorrento en 2008. Donc en fait le Il Divo, c'est le surnom d'Andreotti, Giulio de son prénom, et qui fut pendant plusieurs décennies, 40 à 50 ans, une figure majeure du parti de la démocratie chrétienne, mais aussi de la vie politique italienne. Alors l'histoire parle de 1992, de son gouvernement jusqu'au procès pour complicité avec la mafia, donc révélé par l'opération Manipulette. Donc les mains propres. Non, parce que l'opération mains propres, c'était une opération policière visant à briser les financements illicites des partis politiques. Voilà. En 90, il luttait pour le 7e mandat de président du Conseil. Évidemment, il y a aussi tous ces liens entre la mafia, le Vatican. C'est un film un peu à la Tarantino. C'est assez sauvage, c'est assez brutal, assez grandiose et grandiloquent. Donc, mais c'est un film brutal sur cet homme qui paraît de premier abord assez tranquille, assez doucement. Il parle très bas. Voilà. Mais il fait partie de cette vie politique italienne où mafia et politique sont souvent de concert. Donc c'est vraiment un très beau film. Et puis le deuxième, c'est un film dont on avait déjà parlé avec l'ami Hugo quand on avait fait l'émission sur Nanni Moretti, donc Le Caïman, en 2006. Donc c'est l'histoire d'un producteur qui est en faillite, Bruno Bonomo, et qui lutte lui par contre contre la dictature du cinéma d'auteur, puisqu'il lui produit des films de série Z. Sa vie est un véritable fiasco, sa femme le quitte, il ne voit plus sa fille. Et là, il y a une jeune réalisatrice qui lui propose un scénario, Le Caïman. Et donc, en fait, il s'aperçoit assez rapidement qu'il s'agit de la biographie du cavaliere, évidemment, de Silvio Berlusconi. Hein. Voilà, donc, qui va faire renaître en lui un nouvel élan. Et en fait, mais c'est-à-dire que ce film est sorti pendant les élections législatives où, évidemment, Romano Prodi et Silvio Berlusconi luttaient l'un contre l'autre. Et évidemment, c'est Romano Prodi qui, d'une courte tête, va gagner, parce qu'en fait, il faut savoir que Nanni Moretti est un réalisateur qui fait partie d'une génération qui lutte justement
contre Silvio Berlusconi, évidemment, son univers médiatique, puisque c'est lui qui produit quand même la majorité des chaînes italiennes. D'ailleurs, il me semble que on ne peut plus l'appeler Il Cavaliere, puisqu'on lui a retiré son titre. Ça faisait partie d'un groupe de gens très, très haut placés. Et donc
Qui
donne des titres. Et voilà. Donc voilà, Nanni Moretti, un cinéaste engagé dans la vie politique italienne. Donc voilà. Pour lancer, puisqu'on arrive un petit peu à la fin de l'émission, j'ai plus qu'un petit film, L'exercice d'État en 2011 de Pierre Scholler. En fait, ça faisait partie d'une trilogie, puisqu'il avait déjà fait un film qui s'appelait Versailles, sur les privilèges vus par les exclus, et dont un film logiquement qui devrait sortir prochainement. Et qui en travaille sur la Révolution française, hein, en 1793, la Terreur. Donc là, pour l'occasion, l'exercice d'État avec Olivier Gourmet, Michel Blanc, Zabou Breitman. En fait, ça parle d'un ministre des Transports, Bertrand Saint-Jean, qui est réveillé en pleine nuit par son directeur de cabinet parce qu'un car a basculé dans un ravin et il doit s'y rendre. Donc en fait, l'histoire, c'est que l'État ne dort jamais. C'est l'odyssée d'un homme d'État dans un monde de plus en plus complexe, parce qu'évidemment, il y a toute une histoire de privatisation des gares. Lui et son directeur de cabinet, qui est joué par Michel Blanc, sont contre, mais le Premier ministre est pour. Donc il va falloir, c'est véritablement une lutte interne. Ça me fait penser au film de Quai d'Orsay qui est sorti dernièrement avec Thierry Lhermitte. Et ben voilà, c'est ça, cette histoire où, bon, là pour l'occasion, Quai d'Orsay, c'est un film un peu plus comique, mais c'est vrai qu'on se noie dans ce monde qui est sans cesse en mouvement et dont il est difficile de cerner entièrement ce qui se passe, et d'autant plus que c'est quand même compliqué, puisque il faut savoir que les hommes politiques suivent un peu la vibe, puisqu'il faut amadouer l'électeur pour les prochaines élections. Et donc, forcément, on ne va pas contre l'électeur. Et donc, je trouve que, voilà, pour l'occasion, c'est vraiment...
Ils mangent trop de pubs, les électeurs. Du coup, il faut leur parler comme dans les pubs.
Voilà, c'est ça, je trouve. Mais voilà, il y a l'exercice d'État, bon, qui est un film un peu sérieux, un peu lourd, il est vrai, par rapport à Quai d'Orsay, que je trouve magnifique. Un Thierry Lhermitte extraordinaire, et Monsieur Personnaz aussi. Et donc, voilà. Donc, je pense que les deux valent vraiment le coup. Et voilà, parce que ce ministre, d'ailleurs, joué par Thierry Lhermitte, est extraordinaire, notamment avec ses stabilos.
Tout à fait. Pour le dernier film, je vais vous mettre un petit extrait. Vous allez reconnaître.
Ouais.
Vous allez reconnaître rapidement de qui il s'agit. C'est un de nos personnages haut en couleur politique en France.
Ouais.
Ça suffit, Yana. Qui a occupé le devant de la scène pendant longtemps. Et qui a été rendu sympathique par les guignols de l'info.
Oui, c'est vrai.
C'est quand même une saloperie sans nom. Voilà, je vous l'envoie.
Mes chers compatriotes, après consultation du Premier ministre, du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale, j'ai décidé de vous dire tout.
Cette confession peut vous paraître surprenante de la part d'un homme qu'on accuse d'avoir toujours menti, souvent à raison d'ailleurs.
Il est certain que j'ai eu un problème de ce point de vue. C'est vrai, je n'aime pas beaucoup me montrer, m'exhiber.
Je suis en train de me demander si c'est une bonne idée de faire ce film.
Fille, pain, t'es foutu, la jeunesse est dans la rue.
Voilà, alors vous avez reconnu Jacques Chirac.
Écoutez, je suis content.
Et puis alors lui, Jacques, dans les relations France-Afrique, wouh,
ah oui.
C'était un grand homme.
Alors là, on a on a Jacques Chirac et on a Didier Gustin qui imite Jacques Chirac. Parce que je vais vous parler d'un film quand même, au fait.
Oui.
Parce que politique, mais film. Dans la peau de Jacques Chirac, qui est un film de Carte Zéro, réalisé donc par lui-même et par Michel Royer, qui date de 2006, on est un an avant les élections présidentielles. Donc c'est un espèce de faux documentaire, si tu veux, puisqu'on mêle des images d'archives, des vraies images de Jacques Chirac, des vrais discours de Jacques Chirac, voilà. Et puis donc cette partie plus parodique avec Didier Gustin qui fait la voix off et qui tourne en dérision un peu le
personnage.
Pas qu'un peu d'ailleurs.
Non, qui tourne carrément en dérision, mais c'est leur métier.
Voilà, alors sauf que c'était pas trop le but de Carte Zéro de le rendre à ce point-là sympathique. Mais qu'est-ce que tu veux, ce gars, il est vraiment...
Il a quand même un côté papy des Français. Hein.
Oui, tout
voilà,
à fait.
Sauf que là, on l'entend, hein, on l'a entendu, là, il est depuis 67, il est sur le... Parce qu'on retrace donc son parcours depuis 67, à partir du moment où voilà, il est devenu secrétaire à l'emploi, qu'il a créé la NPE ou quelque chose comme ça. On voit qu'il a le même discours que tous les autres depuis 67, que... Je ne sais pas pour vous, hein, mais il me semble que la situation ne s'est pas améliorée.
C'est parce qu'il n'y a pas eu assez de motivation.
C'est,
voilà,
ça,
c'est ça.
C'est ça, voilà.
Les gens sont des fainéants.
Et donc, il a un peu loupé son coche, Carl Zero. Bon, qui est un personnage un peu plein de dualité aussi, hein, le Carl Zero. Quand
par
même.
Contre, Jacques Chirac, il n'a pas du tout loupé le coche. Hein. Pour le coup, il est sorti son dernier mandat, donc c'était le mandat contre Le Pen.
Oui.
Et il est
80%.
Voilà, donc score de
oui,
République
bah,
bananière.
Voilà, d'Afrique. Oui.
Et il le dit, il le reconnaît. Je sais très bien que vous n'avez pas voté pour moi, mais contre moi. Je ferai de mon mieux. Et il part finalement, alors qu'il, s'il n'avait pas été réélu, selon moi, il serait parti un peu avec les travers qu'on lui connaît.
Bah.
Et puis là, il part de la présidence avec une espèce de gloire éternelle. Et pourtant, pour le coup,
c'est
lui, c'était saloperie. Un véritable enculé.
Oh, Anna.
Ah non, mais attends, le bruit et l'odeur, les relations avec l'Afrique, la politique
la
intérieure.
La mairie de Paris,
les
emplois fictifs.
Tout,
et
tout
les voyages.
Pouille. Attends, on l'appelait 15 minutes douche comprise, le mec qui baisait avec tout le monde à la mairie.
Oh en même temps, il faut comprendre quand tu vois Bernadette.
Non, mais c'est ça. Bon, bref. Et donc, c'est quand même un des pires, mais qui part avec une image redorée.
Ouais. Et, ouais, et je pense qu'il a toujours le capital sympathie des Français. Enfin, moi, je
mais
trouve
clairement.
Que c'est une
ouais.
enflure. Mais, il a un côté comique aussi. On a deux, trois citations assez mythiques dans le film du Jacques Chirac. Quoi, du... Je ne sais pas si aujourd'hui, le président, bon, il n'est pas franchement...
adulé.
Et puis, il est difficile à
bah,
valoriser.
18%, non, pas trop, non.
Parce que là, Jacques Chirac, il avait du charisme hein, quand même, mais
bah
principalement
oui.
du charisme humoristique. C'est quand même lui qui a dit « L'Europe, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre
».
Voilà, je sais pas.
Ouais.
Et puis, moi, je m'en souviens, c'est quand il passait au salon de l'agriculture où il serrait des pognes et...
Il buvait,
voilà.
Il mangeait du fromage
alors,
et il tapait alors,
et
des
ça,
vaches.
Voilà, mais ça avait été souvent reproché d'ailleurs à Sarkozy. Voilà,
l'un était, assez populaire. Elle,
voilà, et pas assez au contact de, entre guillemets, la populace, quoi.
Bah, Sarkozy, c'est là-haut à côté, hein.
Bah, c'était plutôt la base parce que c'est plutôt la base parce que lui était petit alors que Chirac
oui,
était grand.
Non mais Sarkozy il a une Rolex, Chirac il boit du pinard quoi.
C'est
vois,
ça, voilà, c'est ça.
Pinard,
c'est pour ça que ouais. ça le rendait ce côté sympathique quoi.
Voilà. Si vous saviez le plaisir que j'ai pu éprouver à passer pour un blaireau, surtout au milieu de corneaux. C'est du Chirac.
Voilà.
Et là, il devient gâteux. Hein,
ah bah non, mais clairement, c'est la fin, là.
Et,
ah bah, oui.
Et du coup, c'est assez drôle parce qu'entre Bernadette et lui, c'est quand même le couple papy-mamie gâteux que la France aime à regarder en riant. Hein,
bah, c'est notre pépé et notre mémé à nous.
C'est ouais, ça, les images en tournée de Chirac
Bigorre,
qui
mais...
essaye de draguer
ah oui
petit machin et Bernadette qui l'a... Oh, Jacques et c'est marrant, tu vois, tu te marres. Alors
ouais,
qu'en
ouais.
fait, c'est un beau couple d'enculés avec leurs pièces jaunes, là, je te
ouais,
dis.
Oh,
dis donc, Anna,
m'agace
deux enculés.
La politique, ça m'agace
mais
beaucoup.
Va à la radio le dimanche matin, fais quelque chose, change
oui,
d'émission.
Ouais. Est-ce que c'est tout, jeune demoiselle?
Bah écoute, oui, tout à fait.
Voilà, donc on conclut ainsi deux émissions de politique. On a ouvert le débat,
ouais.
mais je pense que...
On a bien compris que la politique, c'était des pourris.
Voilà, c'est ça. Voilà, oui, effectivement, oui.
Ça donne un paquet de films tragiques.
Voilà.
Ouais.
Bah, après, il y a eu beaucoup de biopics, parce qu'il y a eu des personnalités dans le milieu politique, évidemment. Et puis, ça reflète aussi des époques. Voilà, donc je pense qu'effectivement, plus ça va, plus c'est complexe, plus c'est noir, plus c'est sombre,
moins
ça
va.
Quoi.
Moins ça va.
Voilà, c'est ça, et c'est génial, c'est super. Je pense que le cinéma n'est pas pour rien sur la désaffection qu'ont les gens sur la vie politique.
ATC, une émission sombre, dystopique, nihiliste.
Oui, parce qu'on a les punks, mais on a les gothiques.
Le cinéma illustre l'opinion populaire,
voilà,
finalement,
c'est ça, ouais.
plus souvent que... le cinéma dont on parle, nous, en tout cas.
Voilà. Oui, bah oui, bien sûr.
Et du coup, c'est vrai que c'est des... Mais c'est à voir.
Oui, ah non, mais tous, ils sont à voir. Hein.
De quoi on parle la semaine prochaine?
Logiquement, il était question qu'on parle des maladies mentales.
La maladie mentale.
Et je ne suis pas folle, vous savez.
Ah, ça va être chouette. Donc, c'est réjouissant comme programme.
C'est bien la maladie mentale, c'est parfait.
Oui, c'est bien. Puis après, la politique, moi, je pense que ça tombe sous le sens.
D'accord. Tout à fait.
À la semaine prochaine.
Allez, ben, ciao, ciao.
Et dédicace, Anna. Prenez soin de vous.
Voilà, ouais.
I love the smell of napalm in the morning. Life is like a box of chocolates.